Le récit de la dernière scène diffère beaucoup d'un évangile à l'autre, chers frères et sœurs. Celui de Saint Jean que nous venons d'écouter ne mentionne ni l'Eucharistie, ni l'agonie qui suivra, alors que les évangiles synoptiques omettent le lavement des pieds. Pourquoi tant de différences ? Aucun ne prétend être exhaustif, car le mystère est bien trop vaste pour un seul récit. Jésus lui-même, en quelques heures, va passer par les sentiments les plus contradictoires. Il a désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec ses disciples avant de goûter le plus mortel des goûts. Il a rendu hommage à la bonté du Père dans l'allégresse de son âme avant de plonger dans une tristesse sans fond. Il a encouragé et consolé ses disciples de sa chaleureuse confiance avant que l'angoisse ne tenaille son propre cœur. Il a scellé enfin la nouvelle alliance avec ses plus proches amis, juste avant que ceux-ci ne trahissent ou l'abandonnent lâchement. Dans cette nuit où son destin bascule, des émotions aussi vives qu'opposées se bousculent en lui. Et que dire de ce que vit chacun des apôtres ? N'avez-vous jamais vécu, vous aussi, ces moments où le cœur est comme une vieille chaussette qui passe dans l'essoreuse ? Chez Jésus, cependant, une constante très nette se dessine à travers tout cela. Durant le lavement des pieds, comme dans son offrande eucharistique, aussi bien que pendant la nuit terrible de Gethsémani, sa liberté est souveraine. D'où lui vient-elle ? Il la puise dans sa relation au Père, le rocher de son cœur auquel il demeure attaché au milieu de toutes les tempêtes. Le Père est l'axe intérieur de sa force, la source de sa délicatesse, la lumière de son regard, l'élan de sa gratuité. En ce jour singulier, Jésus révèle le visage de son Père par la souveraine liberté avec laquelle il garde en tout l'initiative. Pour célébrer la Pâque, il choisit le moment, le lieu, la manière, les convives. Qu'il aille d'un endroit à l'autre, c'est lui qui désigne ceux qui le suivront. C'est même lui qui dit à Judas de faire ce qu'il doit faire. Rien ni personne n'échappe à son initiative, jusqu'à l'ultime moment annoncé d'à l'avance où l'on mettra la main sur lui. C'est alors seulement qu'il entrera dans sa passion, dans la plus complète passivité de l'agneau immolé. Or, justement, ces initiatives sont déconcertantes, révoltantes même pour ses disciples. Eux sont tantôt tétanisés, tantôt sommés de se laisser faire, et ils se découvrent incapables de le suivre, de le comprendre, ou même de veiller avec lui. Le lavement des pieds participe donc de cette pure initiative. C'est un geste d'esclave que Jésus pose sans aucune obligation, à un moment qui ne convient pas, dans une sorte d'outrance résolue. Il montre l'excessive gratuité de son amour. Au-delà de la tendresse déconcertante que cela révèle à ses disciples, notons combien le paradoxe est complet. Jésus choisit le geste de celui qui ne décide de rien, l'esclave, pour manifester la totale liberté avec laquelle il entre dans sa passion. Dans les trois autres évangiles, le même paradoxe éclate dans l'Eucharistie. Quel choc révoltant pour les apôtres d'entendre leur maître les inviter à manger son corps, à boire son sang, pour célébrer et proclamer sa mort. On retrouve la même outrance pour le même excès de gratuité. Jésus utilise la violence mortelle dont il va être victime et que la séparation du corps et du sang annonce pour librement s'offrir aux hommes et à son Père. Comme le geste de l'esclave désignait le libre choix du maître et seigneur, ici la violence du sang signifie la joie du don partagé. La malédiction de l'esclavage et de la mort se voit retournée par la liberté du Christ en bénédiction et action de grâce, en un merci large et profond à réitérer sans fin. Le choix délibéré de ces signes aux profondes résonances bibliques nous montre que Jésus n'est pas un grand naïf, aveuglé par sa générosité. Il voit très bien et depuis longtemps ce qui va se déchaîner contre lui. Il ne tente pas d'éviter la réalité comme l'obstiné, préférant s'enfermer dans son idéal, quitte à courir exalté vers sa perte en criant victoire. Jésus n'a rien à voir avec l'homme possédé par son propre projet, prêt à tout lui sacrifier en emportant dans sa perte des disciples fanatisés. Non, il les serre à genoux. Il n'a d'autre projet que leur amour et leurs soins mutuels. Il ne leur cache rien de la réalité dans laquelle il entre consciemment. Et cette même liberté va se déployer jusque dans la nuit de son agonie. Au mont des Oliviers, il ne s'agit plus d'esclaves ni de morts sanglantes. C'est le refus, ou plus exactement, la révolte de la chair que Jésus vient transformer en la pénétrant de son obéissance filiale. Jésus y accueille toute cette cohue de sentiments qui se déchaîne en lui et que l'homme éprouve devant sa propre destruction. Il sent sa volonté humaine se cabrer. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Dans son union au Père, ce oui répété sans cesse, Jésus laisse venir à lui tous ses sentiments que sa mort prochaine provoque en son humanité. Librement, il choisit de les vivre, de les rencontrer, de les épouser. Longuement, il les accueille au lieu de les censurer. Patiemment, il les ouvre à son Père dans une totale et définitive confiance. Ainsi, Jésus enveloppe dans son consentement au Père toutes ses émotions. Paradoxe encore une fois, puisque c'est le non lui-même de l'homme, notre propre révolte, que Jésus, dans sa liberté souveraine, laisse approcher pour l'apprivoiser et l'ouvrir à son fiat éternel. Alors que retenir de tout cela ? La liberté de Jésus puisée dans la tendresse du Père ne transforme pas seulement le pain et le vin en son corps et en son sang. Cette nouvelle alliance nous délivre de tout conditionnement servile. Elle permet à notre violence de s'ouvrir au don et à notre épuisante révolte contre la réalité de se reposer enfin dans un consentement qui apaise tout. Père, non pas ma volonté, mais la tienne.